Lettre ouverte. Au révérend Knowles, secrétaire de l'Union américaine du sabbat. Cher monsieur, dans les documents mensuels de l'Association américaine du dimanche, édités par vous-même, vous avez choisi de me faire accuser de mauvaise foi, et vous avez également fait de votre mieux pour faire croire que j'admets tout ce que les amis de la loi sur le repos dominical revendiquent en général, le droit du gouvernement de légiférer pour le bien public. Vous avez déformé des extraits du compte-rendu de mon discours devant le comité sénatorial sur la loi du dimanche. Puis vous avez mis en italique certains mots et certaines phrases dans un seul passage pour faire croire que j'admets le droit du gouvernement de légiférer en faveur des lois dimanche pour le bien public. Vous avez cité dans mon discours les mots suivants de la manière suivante. Chaque fois qu'un gouvernement civil tente d'imposer quoi que ce soit à l'un des quatre premiers commandements, il empiète sur la prérogative de Dieu et doit être désobéi. Je ne dis pas que je résiste, mais désobéis. L'État, dans sa législation, ne peut jamais légiférer correctement en ce qui concerne la foi religieuse d'un homme ou en relation avec quoi que ce soit des quatre premiers commandements du Décalogue. Mais si, dans l'exercice de ses convictions religieuses sous les quatre premiers commandements, il empiète sur les droits de son voisin, le gouvernement civil dit que c'est illégal. Pourquoi ? Parce que c'est irréligieux ou immoral ? Pas du tout, mais parce qu'il est incivil. Et pour cette raison seulement. C'est nous qui soulignons en italique, l'éditeur. C'est dans ces mots en italique que l'on s'efforce de me faire admettre ce que j'ai toujours et toujours nié devant le comité et nié partout ailleurs. Vous avez inséré dans la citation ci-dessus trois périodes, indiquant qu'une partie a été omise. Et vous savez très bien, monsieur, que dans la partie qui y est omise se trouve ce qui suit. Sénateur Blair, vous vous opposez donc à toutes les lois dominicales du pays ? Monsieur Jones. « Oui, monsieur. » « Sénateur Blair, vous êtes contre toutes les lois du dimanche ?» Monsieur Jones. « Oui, monsieur. Nous sommes contre chaque loi dominicale jamais adoptée dans ce monde, de la première loi adoptée par Constantin à celle proposée maintenant. » Sénateur Blair. « État et national ?» Monsieur Jones. « État et national, monsieur. » Non seulement ces mots étaient-ils là, mais dans la partie que vous avez imprimée à la suite des mots en italique, vous avez vous-même imprimé mon déni manifeste du droit de 999 personnes sur 1000 de contraindre le millième homme à se reposer le jour où la majorité se repose, dans le suivant. Sénateur Blair, la majorité a le droit de statuer sur la réglementation de la société, et si César réglemente la société, la majorité a le droit dans ce pays de dire ce qui doit être rendu à César. Monsieur Jones, si, aux États-Unis, 999 personnes gardaient le septième jour, c'est-à-dire le samedi, et que j'ai estimé que c'était mon choix et mon droit de le faire le dimanche, j'insisterai sur ce point. Ils n'auraient pas le droit de m'obliger à me reposer le samedi. Sénateur Blair, en d'autres termes, vous présumez que, pour le bien de la société, indépendamment de l'aspect religieux de la question, la société ne peut exiger l'abstinence du travail le jour du sabbat si cela dérange les autres ? Monsieur Jones. Non, monsieur. Sénateur Blair, vous êtes logiquement logique qu'il n'y ait pas de sabbat. Ma dernière expression, qui consiste à dire « non, monsieur », est en accord avec la déclaration du sénateur Blair, qui demandait si la société était d'accord, si la société ne pouvait exiger l'abstinence du travail le jour du sabbat. Ma réponse signifie que, et quand cela a été dit, cela voulait dire que la société peut ne pas le faire. Pour ce qui est de déranger les autres, je venais de prouver que les occupations communes des hommes qui choisissent de travailler le dimanche ou un autre jour ne dérangent pas et ne peuvent pas déranger le reste de la majorité qui choisit de se reposer ce jour-là. Encore une fois, un peu plus loin, vous imprimez un autre passage dans lequel sont les mots suivants. Sénateur Blair, vous voudriez abolir tout sabbat dans la pratique humaine qui se présentera sous forme de loi, à moins que l'individu ici et là ne juge opportun de l'observer ? Monsieur Jones, certainement, c'est une affaire entre l'homme et son Dieu. Maintenant, je voudrais que vous montriez dans un document mensuel, ou par un autre moyen, comment vous pouvez, par un moyen juste ou sincère, même avec l'utilisation de l'italique, m'obliger à admettre le droit du gouvernement à faire des lois du dimanche pour le bien public. Vous savez, monsieur, que dans ce discours, j'ai clairement déclaré que toute loi humaine visant à appliquer le sabbat, au lieu d'être pour le bien de la société, est pour la ruine de la société. Encore une fois, vous savez, car vous l'avez imprimé dans l'un de vos documents, que le sénateur Blair m'a dit « Vous êtes logique jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de sabbat. Vous savez qu'à un tel moment, il m'a répété, vous êtes tout à fait logique, car vous dites qu'il ne devrait pas y avoir de législation dominicale par État ou par nation non plus. Maintenant, monsieur, je le répète, vous m'avez accusé de manque de sincérité. Toute personne énonçant une telle accusation doit être sincère. Par conséquent, expliquerez-vous sur quel principe vous prétendez être sincère, alors que, face à ces affirmations positives et explicites indiquant le contraire, et à la confirmation du sénateur Blair à cet effet, vous pouvez délibérément forcer dans mes mots un sens qui n'a jamais été là, qui n'a jamais été destiné à être là, et qui ne peut jamais être exprimé honnêtement. Plus que cela, on peut difficilement penser que le sénateur Blair appréciera beaucoup le compliment que vous avez fait à son discernement logique, alors que sa déclaration répétée selon laquelle j'ai été logique jusqu'à maintenant a forcé mes mots à ce qui signifie que cela ne pourrait avoir d'autre effet que de me rendre illogique. Je n'ai aucune objection à ce que vous imprimiez mes mots tels qu'ils ont été prononcés, mais je m'oppose à ce que vous leur imposiez un sens directement opposé à celui que les mots eux-mêmes véhiculent et qu'ils étaient censés exprimer. Et je m'oppose en outre à ce que vos déclarations soient assez confuses pour vous permettre de leur imposer un sens qu'elles ne peuvent jamais honnêtement revêtir. Dans ce discours, j'ai également déclaré que si un adorateur d'idoles de ce pays devait tenter d'offrir un sacrifice humain, le gouvernement devait protéger la vie de son sujet de l'exercice de la religion de cet homme. Qu'il a le droit d'adorer toute idole qu'il choisit, mais qu'il n'a pas le droit de commettre un meurtre dans le culte de son idole, et que l'État interdit l'assassinat sans aucune référence à la question de savoir si cet homme est religieux ou qu'il vénère ou non, sans aucune référence au commandement qui interdit le culte des idoles, et sans aucune pensée d'interdire son idolâtrie. J'ai également déclaré que si quiconque, invoquant des exemples apostoliques, pratiquait la communauté de biens et que cette pratique justifiait qu'il prenne vos biens ou les miens sans notre consentement, l'État interdirait le vol sans aucune référence aux opinions religieuses de l'homme et aucune idée d'interdire la pratique de la communauté de la propriété. Vous savez que c'est en référence directe à ces mots que j'ai utilisé les mots que vous avez mis en italique. J'y ai clairement nié que l'État ne puisse jamais légiférer en relation avec quoi que ce soit en lien avec les quatre premiers commandements du Décalogue. Mais si un homme, dans l'exercice de ses droits en vertu des quatre premiers commandements, et en l'occurrence du quatrième commandement, devait empiéter sur le droit de son prochain, comme je l'ai dit, en mettant en danger sa vie, sa liberté ou ses biens, alors, en raison de l'incivilité, le gouvernement a le droit de l'interdire, de s'attaquer à son caractère ou de porter atteinte à ses droits de quelque manière que ce soit, mais sans jamais se poser la moindre question pour savoir si l'homme est religieux ou irréligieux et sans l'intention ou la pensée d'interdire le libre exercice du droit de tout homme de travailler n'importe quel jour ou tous les jours comme il le souhaite. C'est précisément ce que tous les États de l'Union font déjà par des lois qui punissent les troubles du culte, des réunions religieuses ou des assemblées pacifiques de toutes sortes. Mais il existe une grande différence entre des lois telles que celles-ci et celles que vous désirez promulguer. Ce sont des lois strictement civiles, interdisant les incivilités, qui sont loin de l'application des lois religieuses. Les défenseurs de la loi du dimanche se plaignent de la perturbation de leur culte le dimanche. S'ils sont sincères, pourquoi n'appliquent-ils pas les lois déjà en vigueur interdisant la perturbation du culte? La Californie, par exemple, interdit la perturbation du culte sous peine d'une amende de $500 et de 6 mois de prison. Mais au lieu de faire appliquer de telles lois légitimes, vous proposez d'interdire le dérangement de votre culte le dimanche en obligeant tout le monde à garder le dimanche. Sur ce même principe, vous voudriez que l'État interdise l'offrande de sacrifices humains par un adorateur d'idoles en le forçant à respecter le deuxième commandement. En bref, le principe est que l'État interdirait les incivilités en obligeant tout le monde à être religieux. Et vous êtes tellement enchanté par cette vision déformée que vous avez choisi, dans votre sincérité et par l'italique, de me forcer à sanctionner le principe de méchanceté. Mais ça ne marchera pas. Je continue de dire, Si votre culte est perturbé le dimanche ou à un autre moment, que l'État punisse la ou les personnes qui créent le trouble. Laissons l'État les punir de lois aussi légitimes que celles qu'ils ont déjà en la matière. Mais que l'État ne tente jamais d'interdire les violations du culte en essayant de contraindre les hommes à adorer, ni d'interdire les incivilités en imposant des pratiques religieuses. C'est ce que j'avais en vue et c'est précisément ce que je voulais dire dans les mots que vous avez mis en italique. Tout cela est encore démontré dans l'argumentation que j'ai avancée, en ce que, immédiatement après les mots que vous avez mis en italique, j'ai prouvé que le travail du dimanche ne trouble ni le repos, ni le culte de ceux qui observent le dimanche. Et la conclusion de cela est, par conséquent, qu'il n'y a aucune base pour les lois du dimanche sur ce terrain. Cela, je le prouve par le fait que ceux qui en font l'objet des lois du dimanche ne reconnaissent pas un instant que le travail du samedi perturbe le repos ou le culte des personnes qui observent le samedi. J'y ai montré que si votre travail du samedi ne trouble pas mon repos ou mon culte, mon travail du dimanche ne peut pas perturber votre repos ou votre culte. J'ai présenté cet argument non seulement sur ce principe, mais à partir de l'expérience réelle. Je sais, par une expérience de 15 ans, que le travail des autres le samedi ne perturbe ni mon repos ni mon culte ce jour-là. Il y a des adventistes du septième jour dans chaque État et territoire de notre pays, au Canada, dans presque tous les pays d'Europe, aux îles Sandwich, en Australie, en Amérique du Sud, en Chine, en Afrique du Sud et ailleurs. Ils se reposent tous le samedi. Ils le tiennent tous comme le sabbat du Seigneur. Mais personne n'a encore jamais entendu qu'un adventiste du septième jour qui se soit plaint du fait que son repos le jour du sabbat avait été perturbé par le travail d'autres hommes. Non seulement il en est ainsi, mais les adventistes du septième jour ont organisé des églises dans la grande majorité des États et des territoires de cette Union. Ces églises se trouvent à la campagne, dans des villages et dans des villes. Ils se réunissent pour le culte tous les samedis. Et bien que, comme tout le monde le sait, le samedi est le jour le plus achalandé de la semaine, au cœur de villes aussi animées que Chicago, Denver, San Francisco, Minneapolis et Kansas City, ces églises d'adventistes du septième jour se réunissent régulièrement pour un culte. Et personne n'a encore entendu dire que des adventistes du septième jour se soient plaints d'être troublés par le travail, l'affaire ou le trafic qui se déroulait ce jour-là. Le fait est que notre culte n'est pas perturbé par ces choses. Maintenant, monsieur, si tout le travail, les affaires et le trafic qui se font le samedi, jour reconnu par tous comme le jour le plus occupé de la semaine, si tout cela se passe dans les villes que j'ai nommées et ne perturbe pas notre repos ni notre culte, voudriez-vous m'expliquer comment il se fait que votre repos et votre culte soient perturbés le dimanche quand il n'y a pas un millième de travail ou de circulation accompli ce jour-là, comme cela se fait le samedi. Cela n'est qu'un argument supplémentaire, cher monsieur, mais il repose sur l'expérience vivante de milliers de personnes tous les septièmes jours, et montre de manière concluante que votre théorie et votre revendication des lois du dimanche échouent à tout moment. Alonzo T. Jones. Annexe B. La lettre suivante du cardinal Gibbons à Lindsay, de Baltimore, montre de la part du cardinal lui-même que le décompte de tous les catholiques romains du pays en faveur de la loi du dimanche sur l'endossement du cardinal, fait par le Dr Crafts et la Women's Christian Temperance Union, était totalement injustifié. C'est exactement ce que j'ai soutenu devant le comité du Sénat et comme nous l'avons dit partout ailleurs. Nous n'avons jamais reproché au cardinal Gibbons ce que le Dr Crafts et la Women's Christian Temperance Union lui ont imposé. Résidence du cardinal, Baltimore, MD, 27 février 1889. Mon cher monsieur, en réponse à votre demande, datée du 25 février 1889, Son Éminence, le cardinal Gibbons, désire que je vous écrive pour vous faire part de tout ce que Son Éminence a donné à la loi du dimanche, et comme il n'avait pas l'autorité, donc il n'avait pas l'intention de lier les archevêques, les évêques ou les laïcs catholiques des États-Unis. Son Éminence m'a dit de vous dire qu'il avait été amené à écrire une lettre en faveur de l'adoption du projet de loi, principalement en raison de la considération du repos et des loisirs qui résulteraient pour nos pauvres concitoyens surmenés et de la facilité avec laquelle ils pourront observer le dimanche d'une manière religieuse et décente. Il est inexact de supposer que Son Éminence, dans les paroles présumées du sénateur Blair, a dit en votre faveur « Nous avons choisi le projet de loi » promettant ainsi que 7 200 000 catholiques l'approuvent. J'ai l'honneur de rester, avec beaucoup de respect, à votre fidélité, Donahue, chancelier. À Lindsay, Esquire, 708, avenue Rainer, Baltimore, Maryland.